Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h, juste après Vibra SOS. Alors, si j'ai bien calculé, c'était la 250e d'Enrique que je salue, que j'embrasse. Et juste après, donc, Vibra SOS, donc après plein de musique et une ambiance bien festive, eh bien, on va devenir un peu sérieux et parler de science, d'actualité scientifique. C'est ça, Biotine, tous les samedis sur l'antenne de Graphite 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Hein, vous avez bien sûr la possibilité de pouvoir récupérer tous les podcasts de toutes les émissions de Graphite sur le site Internet. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de nous écouter le midi, le samedi. Hein, vous faites peut-être autre chose, mais dans l'après-midi ou un autre moment de la semaine, vous pouvez télécharger les podcasts et pouvoir nous écouter comme bon vous semble. Et également la rediffusion le mardi matin à 10h. Hein, pour ceux qui sont qui ont envie de parler, d'écouter un peu de science le mardi à 10h, pourquoi pas ? Il n'y a pas d'heure pour parler de science. Biotine, c'est l'émission qui feuillette un petit peu la revue de presse de l'actualité scientifique. Nous sommes aujourd'hui le 5 octobre, c'est la journée mondiale des enseignants, hein, c'est ce qu'indique l'UNESCO. Eh bien, je souhaite une bonne fête aux enseignants. En plus, on est samedi, c'est bien de penser à eux un samedi. Et puis, c'est aussi la journée mondiale du sourire. Ah tiens, mais pourquoi c'est la journée mondiale du sourire ? Ça a été créé par Harvey Ball, il est à l'initiative du smiley, ce fameux rond jaune avec deux yeux, une bouche qui sourit, c'est lui qui a créé ça, et donc c'est la journée mondiale du sourire. Sourions donc ce 5 octobre, s'il vous plaît. Naissance, le 5 octobre 1864 à Besançon de Louis Lumière, un ingénieur et industriel français qui a joué un rôle déterminant dans la photographie et dans la mise au point du cinéma. Alors Louis Lumière, il est le plus souvent associé au nom de son frère aîné, Auguste Lumière, sous la dénomination des frères Lumière. Ce rapprochement est un peu abusif en ce qui concerne l'invention du cinématographe, puisqu'en réalité, Auguste a échoué dans sa tentative de fabriquer une première machine, et il a passé la main à son frère qui, lui, a fait aboutir l'invention. D'autre part, Louis a été le réalisateur de toutes les premières vues photographiques animé de la maison Lumière, auquel Auguste n'a assisté parfois qu'en tant que comédien amateur. Mais le contrat passé entre les deux frères prévoyait qu'ils soient associés systématiquement, aussi bien moralement que financièrement, dans tous leurs travaux et découvertes. Chaque frère œuvre de son côté, mais jusqu'en 1918, tous leurs travaux seront signés par leurs deux prénoms. Cette communauté de labeur se double d'une parfaite entente fraternelle. Les deux frères qui ont épouser deux sœurs vivent dans les appartements symétriques d'une même villa. Ils étaient quand même très proches, les frères Lumière. Et donc là, 5 octobre 1864, naissance donc de Louis Lumière, qui est mort en 1948. Décès le 5 octobre 1996 de l'ingénieur américain Seymour Roger Cray. Il est notamment connu pour avoir conçu plusieurs super ordinateurs et fondé la société qui porte son nom, la Cray Research. Il y a un prix d'ailleurs qui porte son nom, hein, le Seymour Cray Computer Engineering Award. Il est décerné tous les ans à une personnalité marquante dans le domaine du calcul haute performance. Seymour Roger Cray est donc mort le 5 octobre 1996. Voilà pour cette éphéméride. Alors, au niveau de l'actualité, vous avez peut-être vu cette nouvelle roue d'un groupe de chercheurs sud-coréens qui viennent un petit peu de réinventer quelque part la roue. Dans un article publié dans la revue Science Robotics, ils présentent une roue inspirée de la tension de surface d'une goutte d'eau dont la fermeté ajustable lui permet de s'adapter à tous les terrains et à tous les obstacles. Vous avez peut-être vu ça cet été, on a vu quelques vidéos sur cette nouvelle roue. Elle est composée d'une structure alvéolée molle en uréthane. Elle est entourée d'une chaîne qui fonctionne comme une chenille et dont la distance entre les maillons est variable. Chaque maillon est relié à un rayon composé d'un fil en forme de U qui part la chaîne extérieure, traverse le moyeu central puis revient se fixer sur l'autre moitié du même maillon de la chaîne. Les scientifiques ont créé un moyeu ajustable dont la largeur peut être modifiée pour ajuster la fermeté de la roue. Et donc, en élargissant le moyeu, eh bien, les rayons deviennent plus courts, va tirer la chaîne vers le centre, ça va augmenter la tension. Cela, ça a pour effet de rendre la roue plus ferme, qui garde alors une forme plus ronde. Et c'est le mode prévu pour rouler sur une surface plane, par exemple. Et pour rouler sur des surfaces plus inégales, eh bien, il faut réduire la largeur du moyeu. Donc, les rayons vont se rallonger, la chaîne, elle est plus écartée, la roue, elle devient plus molle. Et ça lui permet de se déformer pour passer sur des obstacles ou même de monter des escaliers, c'est quand même fascinant. Les chercheurs imaginent que leur roue pourrait équiper des robots, des véhicules tout-terrain. Ils ont même testé leur invention sur un fauteuil roulant en équilibre sur deux roues. Alors toutefois, ils doivent encore résoudre un petit problème puisque des particules peuvent se glisser entre les maillons de la chaîne. Et donc la prochaine étape sera donc de créer une structure pour recouvrir la roue afin de la protéger. Mais voilà, c'est une roue molle qui s'adapte à tous les terrains, qui absorbe les chocs. Et c'est vraiment assez performant. C'est donc des chercheurs sud-coréens qui ont démontré, enfin qui ont créé cette roue à la fermeté ajustable. C'est vraiment intéressant parce que ça peut avoir des applications concrètes et pratiques vraiment utiles, bien évidemment. Je pense que vous avez vu ça à la, comment dire, d'aspect, elle est assez, j'allais dire étonnante parce que inédite, on n'a pas habitué à avoir une roue comme ça, mais en tout cas, quand on a vu les vidéos et qu'on voit qu'effectivement, il est possible d'avoir la possibilité d'avancer sur des terrains qui sont quand même très, comment dire, très escarpés, très compliqués. Ça peut être utile dans certaines applications, bien évidemment. Autre information, autre sujet, aucun rapport. Aujourd'hui, j'ai décidé que je ne ferai aucune transition parce que sinon, ça va être trop compliqué. Là, on va parler de médecine et de quête de l'immortalité. Ah, l'immortalité, mon Dieu, mon Dieu. Eh bien, cette quête de l'immortalité, elle est désormais prise très au sérieux par les scientifiques qui ne se lassent pas de chercher, de trouver des nouveaux moyens de prolonger la durée de vie. Et plus exactement, c'est de prolonger la durée de vie en bonne santé. Eh bien, l'isoleucine pourrait jouer un rôle clé dans cette recherche. L'isoleucine, c'est un acide aminé essentiel. Il ne peut pas être synthétisé. Son apport, il est donc uniquement alimentaire. Alors, on le retrouve entre autres dans les œufs, la viande, le poisson, les pois chiches, le riz, les amandes, les produits laitiers. Donc, on le retrouve quand même dans pas mal de choses. Il est notamment indispensable à la synthèse de l'hémoglobine et à la synthèse également de protéines. Il est aussi indispensable à la régulation de la glycémie. Toutefois, il pourrait être néfaste lorsqu'il est consommé en excès. Il peut entraîner des problèmes de santé métabolique, surtout chez les personnes qui ont un indice de masse corporelle élevé, donc les personnes en surpoids ou obèses. Dans une étude qui a été publiée dans la revue Cell Metabolism, il y a des chercheurs de l'université de Wisconsin aux États-Unis qui expliquent avoir nourri des souris génétiquement diversifiées à base de différents régimes. Alors, il y a eu un régime standard, un régime avec tous les acides aminés réduits de 2/3 et un régime où seule l'isoleucine était réduite. Et résultat, les souris qui avaient un régime pauvre en isoleucine, elles ont vu leur durée de vie augmenter de 33% pour les mâles, 7% seulement pour les femelles. Tout ça en maintenant un poids plus faible malgré une consommation calorique plus élevée. Donc les résultats sont quand même assez étonnants et assez intéressant. Cette restriction a globalement amélioré la santé des souris qui étaient concernées. Elles présentaient moins de problèmes liés au vieillissement, comme par exemple l'agrandissement de la prostate et le développement de tumeurs chez les mâles. Et elles ont également montré de meilleures performances sur de nombreux indicateurs de santé, comme par exemple la force musculaire et les niveaux de sucre dans le sang. Selon les scientifiques, une réduction de l'isoleucine par le biais de l'alimentation ou de médicaments qui bloquent cet acide aminé pourrait représenter une voie prometteuse pour prolonger la santé et la vie humaine si, bien sûr, on passe les tests supplémentaires qui doivent être nécessaires par des essais cliniques chez l'homme, bien évidemment, parce que là, on a fait pour l'instant au niveau de la souris. Mais en tout cas, les premiers résultats que l'on a sont assez intéressants et ça met au jour le rôle phare que jouerait cet acide aminé, l'isoleucine, sur notre état de santé et sur notre durée de vie. C'est assez intéressant d'avoir cette information parce que, bien sûr, comme on le dit dans cet article de Futura, on a encore pas mal de temps pour qu'on soit certain de ça, parce que là il faut quand même qu'on fasse des essais un petit peu plus poussés et que l'on puisse bien sûr aussi faire des expérimentations chez l'homme, mais en tout cas ça pourrait donner des perspectives assez intéressantes en termes de prolongement de la durée de vie en bonne santé. C'est ça qui est intéressant en fait, c'est-à-dire que on mourrait plus vieux et en meilleure santé. C'est pas mal, c'est prometteur, c'était un beau programme, je sais pas si ça vous intéresse, mais en tout cas, pourquoi s'en priver, en fait ? Pourquoi on s'en priverait ? Il n'y a pas de raison. Alors, autre chose, et cette fois, on va parler d'un danger invisible qui s'accumule dans l'atmosphère, le méthane. Le méthane, la formule chimique, c'est CH4. Pour ceux qui ont fait de la chimie, ils le savent. Le méthane, c'est un gaz à effet de serre. C'est comme le dioxyde de carbone, mais avec un pouvoir réchauffant largement plus important, notamment pendant les 20 années qui suivent sa libération. Et il n'y en a pas eu autant dans notre atmosphère depuis au moins 800 000 ans. Ce gaz sous-estimé, il atteint un niveau qu'on n'a jamais vu. La concentration de méthane dans l'air a même été multipliée par presque 3 depuis l'ère pré-industrielle. Résultat, les scientifiques estiment que ce gaz-là est responsable d'environ 30% du réchauffement climatique. C'est pourquoi plus de 150 pays se sont déjà engagés en signant le Global Methane Pledge. Ils ont promis de réduire leur émission de méthane de 30% avant la fin de la décennie. Mais ce programme, le Global Methane il y a un résumé qui est publié sur certains sites internet pour que vous puissiez un petit peu savoir ce qu'il en est. Ça montre que les émissions mondiales de méthane au cours des 5 dernières années, ces émissions ont encore augmenté plus rapidement que jamais auparavant. C'est-à-dire que d'un côté, on se dit oui, on va réduire les émissions de méthane. Et en fait, on se rend compte que c'est totalement la courbe inverse. À l'heure actuelle, nos objectifs semblent aussi lointains qu'une oasis dans le désert. C'est ce qu'estime Rob Jackson, le président de ce programme Global Carbon Project à l'université de Stanford aux États-Unis. Nous espérons tous qu'ils ne sont pas un mirage. Alors, il existe certes des sources naturelles de méthane. Les zones humides en sont un bel exemple, mais ce sont bel et bien les émissions humaines qui ont augmenté de manière démesurée de 20% en 20 ans. Donc c'est quand même énorme, jusqu'à représenter donc aujourd'hui 2/3 des émissions de méthane dans notre atmosphère, et ça contribuerait au réchauffement de 0,5 degrés, ce qui est loin d'être négligeable. Les chercheurs attribuent cette hausse principalement à l'industrie des combustibles fossiles, à l'agriculture, à la gestion des déchets, alors plus précisément à l'extraction du charbon, à la production et l'utilisation de pétrole et de gaz fossiles. Alors tout ça, ça libère aussi du dioxyde de carbone, mais en même temps, ça libère aussi également du méthane. Ça serait également dû à l'élevage de bovins et de moutons, ainsi qu'à la décomposition des aliments et des déchets organiques dans les décharges. L'étude précise que pour chaque tonne de méthane émise par le secteur de l'énergie, 2 tonnes de méthane sont émises par l'agriculture et les déchets. Il n'y a guère qu'en Europe que les émissions provenant des activités humaines ont baissé, peut-être aussi en Australie. Par contre, ça a totalement explosé en Chine et en général dans la partie de l'Asie du Sud-Est. Ce qui change dans cette dernière évaluation de nos émissions de méthane, c'est que les scientifiques y ont inclus des émissions jusqu'ici considérées comme naturelles, celles de certains lacs, par exemple, les lacs artificiels, parce qu'ils sont responsables de l'émission d'environ 30 millions de tonnes de méthane par an. Le résultat, en fait, de la décomposition de la matière organique qui est submergée. Les émissions des réservoirs derrière les barrages sont tout autant une source humaine directe que les émissions de méthane d'une vache ou d'un champ de pétrole ou de gaz. Donc les scientifiques estiment qu'environ 1/3 des émissions de méthane des zones humides et des eaux douces au cours des dernières années ont été influencées par des facteurs d'origine humaine. Rappelons que pour être dans les clous des objectifs climatiques fixés par l'accord de Paris, les émissions de méthane devraient diminuer de 45% d'ici 2050 par rapport à celle où il y a 4 ans, eh ben bon courage, hein. Et que des solutions parfois assez simples existent, parmi lesquelles la détection et la réparation des fuites, la récupération des gaz évacués, l'amélioration des pratiques de gestion des déchets. Dans le domaine de l'agriculture aussi, il y a des mesures qui peuvent aider à limiter les émissions de méthane, comme un changement dans l'alimentation du bétail ou l'amélioration de la gestion du fumier également. Mais donc voilà, c'est un gaz qui était jusqu'à maintenant sous-estimé, qui a atteint un niveau jamais vu depuis 800 000 ans. C'est le méthane, ses émissions ont totalement explosé et il va falloir veiller ça de plus près. Jusqu'à maintenant, on parlait essentiellement du dioxyde de carbone, mais donc maintenant, on va mettre le méthane dans la liste. On ne s'en sortira jamais, j'ai l'impression. Allez, Biotine, c'est aussi un peu de musique. Tiens, on va écouter Water Lilies sur l'antenne de Graphite. C'est là, c'était Water Lilies sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine, l'émission d'actualité scientifique, tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite. Alors, je vous parlais juste avant le titre que nous venons d'écouter que le méthane était quand même maintenant l'une des nouvelles, cibles qu'il va falloir veiller. Mais peut-être que les arbres sont peut-être une arme secrète pour lutter contre le réchauffement climatique, parce qu'une étude parue dans Nature qui montre en effet que l'écorce des arbres peut absorber le méthane, justement, ce deuxième gaz à effet de serre contribuant le plus au dérèglement climatique après le dioxyde de carbone, comme on vient de le dire. Il y a une équipe britannique qui a analysé les échanges de méthane entre des arbres de forêt aux conditions hydrologiques et climatiques différentes, car ils suspectaient la présence de bactéries méthanotrophes dans leur écorce. Alors, méthanotrophes, c'est-à-dire qu'elles étaient capables, ces bactéries, de pouvoir capter le méthane. Et en utilisant des chambres d'incubation, ils ont observé que l'écorce émettait du méthane jusqu'à une hauteur de environ 1 mètre avant de le réabsorber plus en hauteur. Selon l'étude, le niveau hydrologique a également influencé l'absorption du gaz. Plus un arbre était proche de l'eau, et moins il absorbait de méthane. Alors, cette découverte pourrait être un atout pour rééquilibrer le bilan de méthane mondial et protéger les forêts. Reste à savoir comment, bien évidemment. Mais voilà, ça serait totalement intéressant parce que ça permettrait justement de pouvoir absorber ce méthane qu'on n'arrive plus à contrôler, en fait. Donc voilà, des pistes comme ça, bien sûr, pour l'instant, on en est encore très très loin avec ce réchauffement climatique. En tout cas, on a cette fois la certitude que peindre les toits des bâtiments en blanc serait le meilleur moyen de lutter contre le réchauffement des villes, selon une modélisation qui a été effectuée par des chercheurs britanniques. Alors, c'est de l'université College London, donc à Londres. Ils ont analysé les données météorologiques de deux journées ayant dépassé 30 degrés à Londres, et les toits peints en blanc auraient fait baisser la température de l'air de plus de 1 degré, donc c'est quand même assez intéressant. C'est mieux que si ces toits avaient été recouverts de panneaux photovoltaïques, d'une plante grasse ou encore si les rues avaient été végétalisées. Donc on aurait cette solution en urbanisme que les toits peints en blanc permettraient de refroidir les villes. Voilà, ça nous vient donc de Londres. Autre chose, ça c'est une information que je trouvais assez intéressante concernant l'effet placebo. L'effet placebo est bien réel et maintenant on sait comment il fonctionne. Cet effet décrit en fait le résultat positif d'une substance ou d'un acte thérapeutique indépendamment de son efficacité attendue, et il est causé notamment par l'espérance que le patient peut avoir sur l'efficacité du traitement. Des études précédentes avaient déjà donné une première idée de ces mécanismes en montrant quelles zones du cerveau pourraient être impliquées. Et bien, une nouvelle étude qui a été publiée il y a quelques jours dans la revue Nature par des chercheurs à l'Université de la Caroline du Nord aux États-Unis, qui vient étayer les circuits neuronaux activés dans ces zones, montrant comment fonctionne l'effet placebo et comment on pourrait le manipuler. L'étude s'est intéressée à l'effet analgésique placebo, c'est-à-dire lorsqu'un placebo peut générer une diminution de la douleur. Et donc les chercheurs ont entraîné des souris pour ne plus ressentir de la douleur dans un contexte normalement douloureux. Et pour cet apprentissage, les souris étaient placées dans un dispositif avec deux chambres facilement reconnaissables visuellement. Et durant 3 jours, le sol des deux chambres était à une température confortable pour les souris, 30 degrés. Et donc, ça leur permettait de pouvoir gambader tranquillement et librement. Puis pendant 3 jours, le sol de l'une des chambres est passé à 48 degrés, une température qui est trop élevée pour les petites pattes des rongeurs. Et durant cette période de conditionnement, les souris apprenaient à associer une des chambres à de la douleur et l'autre à l'absence de douleur. Comme ces deux chambres étaient facilement reconnaissables, elles ont donc identifié assez rapidement quelle était la salle où on n'était pas bien et dans laquelle on était bien. Et après cette période, le sol des deux chambres, cette fois, était passé à 48 degrés pour tester si l'entraînement avait fonctionné et si les souris ressentaient moins de douleur dans la pièce qui était censée être indolore malgré sa nouvelle température trop élevée. Et sans surprise, les souris montraient moins de signes de douleur dans cette chambre que dans la première, alors qu'elles avaient la même température. Et elles devaient donc générer la même douleur. Eh bien non, quand elles étaient dans la chambre où elles étaient dites au départ qu'on était mieux, eh bien elles étaient mieux en fait, alors que théoriquement ça ne devait pas être le cas. C'est donc cet effet placebo qui a duré pendant au moins une semaine. Les chercheurs, ils ont ensuite observé le cerveau de ces souris pour comprendre quel mécanisme était responsable de cette diminution de la douleur. Ils ont mis en évidence un circuit neuronal avec des neurones qui partaient à une zone précise du cerveau, puis ça passait au niveau du cortex préfrontal. En fait, c'est une zone qui est associée à la douleur. Puis, on allait dans d'autres zones du cerveau, notamment la structure, le cervelet, c'est la structure qui joue un rôle dans l'apprentissage et le conditionnement. Donc, on a pu suivre et comprendre un peu ce qui se passait dans le cerveau en termes d'informations nerveuses pour voir un petit peu par où ça passait, dans quel était, comment dire, le cheminement qui était fait. Et ces neurones qui connectent ces deux zones, c'est-à-dire la zone où il y avait justement la zone de départ et la zone où il y avait l'apprentissage, eh bien, on a vu que ces neurones s'activaient progressivement lors de la phase de conditionnement. Et donc, ça va activer à leur tour d'autres neurones. L'idée, c'est que, quelque part, on était dans la possibilité de pouvoir conditionner certaines zones du cerveau des souris selon les conditions dans lesquelles elles étaient placées. Et on voyait également qu'il y avait des... certaines zones du cerveau qui permettaient aussi d'avoir un aspect un petit peu calmant et qu'elles pouvaient actionner, c'est-à-dire qu'il y avait une atténuation de la sensation de douleur. Ça pouvait avoir, c'était quelque part une autorégulation pour pouvoir supporter ce qui se passait. Et donc ils ont effectué tout cela, il y a tout un cheminement assez complexe que je vais vous épargner tout ce qui s'est passé au niveau de l'imagerie médicale pour avoir une idée de ce qui s'est passé dans le cerveau de ces souris. Mais ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que tout cela a entraîné une baisse de la douleur qu'elles ressentaient alors qu'elles subissaient différents tests de douleur et que, quelque part, selon la situation où elles étaient, elles avaient conditionné par rapport à ce qu'elle pensait qu'elle devait ressentir. Je ne sais pas si je suis clair, mais ça veut dire que il n'y avait plus quelque chose de totalement objectif, mais plutôt de subjectif dans l'idée que je suis dans ces conditions-là, donc je dois avoir moins mal, même si dans la réalité, ce n'était pas le cas. Si on reprend l'expérience de départ, si par exemple, on n'a pas nécessairement les détails, mais si on a une pièce qui est blanche, une autre pièce qui est noire, et au départ on associe la pièce blanche en étant la zone où il n'y a pas de douleur, si cette pièce blanche devient aussi chaude que la noire, on devrait avoir la même douleur, les souris, alors qu'elles étaient dans la pièce blanche, se disaient « je suis dans la pièce blanche, donc je dois avoir moins mal ». Même si ce n'était pas le cas. Et ils ont réussi à suivre un petit peu ce qui s'est passé dans le cerveau en termes d'information pour que les souris puissent avoir ce sentiment, ce ressenti chez elles. Alors, donc c'est assez complexe bien évidemment, mais ça permettait de comprendre un petit peu ce circuit au niveau des neurones qui était important pour avoir cette espèce d'effet analgésique, c'est-à-dire cet effet un peu antidouleur, ou en tout cas réduction de la douleur, un effet placebo dans ce cas-là précis, mais il reste à établir comment... on veut essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce fonctionnement, on comprend un petit peu la trajectoire, mais on ne comprend pas nécessairement ce qui s'y passe d'une façon précise. Comme je le dis très souvent dans cette émission, la zone du cerveau est la zone la moins connue du corps humain. Et bon, là, c'est des souris, mais en tout cas, on sait très bien que c'est encore un espace de questionnement et de à investiguer d'une façon vraiment approfondie, parce qu'on a encore très, très peu d'informations. Donc, ils constatent, les chercheurs, ce qu'il se passe chez les souris, mais on ne sait pas encore précisément le mécanisme qui est mis en place. En tout cas, nous avons besoin de meilleures façons de traiter la douleur chronique, notamment de traitements sans effets secondaires nocifs ou des effets addictifs. Nous pensons que nos résultats ouvrent la porte à la possibilité de cibler cette nouvelle voie neuronale de la douleur afin de traiter les personnes différemment, mais de façon potentiellement plus efficace. C'est ce qu'explique notamment Greg Scherer, qui est l'auteur de cette étude. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on serait peut-être en mesure, avec cet effet placebo, de pouvoir apporter des solutions thérapeutiques, des solutions de guérison sans l'utilisation de médicaments. Si on extrapole, c'est un petit peu là l'idée. Donc si on a un effet placebo qui serait véritablement efficace, alors bien évidemment, ça permettrait d'avoir des perspectives d'avenir totalement intéressantes, bien sûr, parce que, certes, là, c'est au niveau des souris, certes, ici, on n'a encore pas nécessairement une information précise des mécanismes mis en place, mais on voit très bien que si on arrive à mieux comprendre ce qui se met en place, on est capable de pouvoir agir peut-être d'une façon plus efficace sur ce fameux effet placebo qui, là encore, vient d'être prouvé par cette équipe. Voilà, j'ai essayé d'être le plus clair possible, je l'espère, parce que c'était pas évident d'aborder ce sujet-là, mais parce qu'en fait, si on avait les images, ça serait beaucoup plus simple, tout simplement, à expliquer. Là, on est à la radio, donc on fait avec les moyens du bord, on va dire. Mais en tout cas, voilà, on essaye de vous transmettre l'information la façon la plus, j'allais dire, digeste possible, comme il est midi et demi. Mais voilà, on essaye un petit peu de pouvoir aborder ces sujets-là d'une façon la plus simple et abordable possible. Mais on est quand même, à chaque fois qu'on aborde le sujet du cerveau, c'est assez complexe. Donc c'est pas toujours facile d'appréhender et d'expliquer d'une façon totalement efficace. J'en suis désolé. Retenez que dans cet article, l'effet placebo, on sait un petit peu mieux comment ça fonctionne. Et du coup, si on sait un petit peu mieux comment ça fonctionne, on va être capable de pouvoir l'utiliser d'une façon plus efficace à bon escient. C'est ça l'idée. Donc c'est totalement prometteur, même si bien sûr, là, on est bien évidemment à des premières étapes pour des nouveaux traitements de la douleur. Bien évidemment, c'est totalement prometteur, totalement intéressant, bien sûr. Voilà, allez, on va écouter un peu de musique hein, pour pouvoir un petit peu se, j'allais dire, avoir une respiration musicale dans cette émission. Et on va écouter Dalek sur l'antenne de Graphite. Et on continue à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. On est tellement bien, vous êtes tellement bien sur Graphite. City gates long abandoned, hit Elkhart type Hammond. B3 mine, note the state chain scenery. This all seem to be average hip hop. Watches noise floor drops into recesses and crevices. As whoever tends to be my nemesis, guesses wrong is the meaning of the song. Bygones be bygones, why prolong the inevitable conclusion? Courageous was illusion. MCs need skill transfusion for using radio friendly format. Predictable attack, fragile as hemophiliacs. I extract essence intact. Speak the face of Anglo-Saxons with no weapons. I'm the kid just slept on. Bottle my aggressor, concise. Powergrass is windowsills to life. Niggas feeling nice. A corner block smoke box. Bitches speak on Christ. Religion and ism is just vice. Dull mental, give them sharper knife. Dull mental, give them sharper knife. Gouging out our eyes, realize what be lies and why the babies cry. I saw a man yesterday, snub nose 38, the temple test his fate and lose. I had the same New Balance shoes. I wonder what size, I wonder what size, I wonder what size. Saw a man yesterday, snub nose 38, the temple test his fate and lose. I had the same New Balance shoes. I wonder what size, I wonder what size, I wonder what size. Desensitized, thrill on ink, well got inebriated off the blood of those I hated. In past lies, nines reloaded by bloated offices, stored in nine lines. Equation sublime in 4/4 time, key of D, classical poet, present day MC. It just sounds like Hennessy, expound boundaries like Timothy Leary. Mind's journey got you weary, couldn't digest the spoken theory. Why your eyes teary, impaired vision, so I speak in infrared verbs. Severed nerves, pulsing Morse coded pain, silent syllables from words, as brainwashed away, ray wash away. Worldwide Chinese torture, cries of my culture keeps my nocturnal insomnia intact. Assaults off the random attack as you react to my act on first take, like Roberta Flack. Deep within the realm of the knapsack, lie script is frozen, cuneiform clay tablets from Sumerian prophets. Unlock it. I saw a man yesterday, snub nose 38, the temple test his fate and lose. I had the same New Balance shoes. I wonder what size, I wonder what size, I wonder what size. Saw a man yesterday, snub nose 38, the temple test his fate and lose. I had the same New Balance shoes. I wonder what size, I wonder what size, I wonder what size.
Galvanized new sense, tide formed electrical jungle vines. Keeping past from hindsight, new sense. Galvanized wand, the one to ring at twilight, where was to ignite.
Galvanized new sense, tide forms electrical jungle vines. Keeping past from hindsight,
new sense. Galvanized wand, the one to ring at twilight, where was to ignite. Galvanized new sense, tide forms electrical jungle vines. Keeping past from hindsight, new sense. Galvanized wand.
I saw a man yesterday, snub nose 38, the temple test his fate and lose. I had the same New Balance shoes. I wonder what size, I wonder what size, I wonder what size. Saw a man yesterday, snub nose 38, the temple test his fate and lose. I had the same New Balance shoes. I wonder what size, I wonder what size, I wonder what size.
Praise Be The Man, c'était Dalek sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique. Peut-être que vous vous ennuyez au travail, et bien c'est peut-être pas forcément une mauvaise chose. Les signataires d'un travail de recherche publié dans la revue Journal of Applied Psychology sont arrivés à la conclusion surprenante après avoir mené 3 études différentes. L'une d'entre elles consistait à demander à des couples à double carrière de répondre à plusieurs sondages par jour afin que les chercheurs puissent déterminer si l'ennui avait une incidence sur les capacités cognitives et la productivité sur le long terme. Eh bien, il est apparu que l'ennui peut avoir du bon. Cette émotion peut stimuler la créativité en nous poussant à observer ce qui nous entoure et à rechercher des idées nouvelles pour modifier la situation. C'est pourquoi il ne faut pas chercher à la combattre à tout prix, selon Kasher Belinda, professeur associé de management à l'Université Notre-Dame et auteur principal de cette étude. Comme dans le jeu du chat et de la souris, le fait de minimiser l'ennui au cours d'une tâche entraîne des déficits d'attention et de productivité que se manifestent au cours des tâches suivantes. Paradoxalement, le fait d'essayer de chasser l'ennui prolonge la durée de vie de ses effets néfastes, c'est ce qu'il explique dans un communiqué. Toutefois, il est possible de minimiser les effets négatifs de l'ennui pour que cette émotion ne devienne pas une source de souffrance professionnelle. Kasher Belinda et ses confrères affirment qu'il faut organiser sa journée de travail de façon à ce que les tâches ennuyeuses ne se succèdent pas. Après une première tâche ennuyeuse, les employés ont intérêt à s'atteler à d'autres tâches plus enrichissantes pour retrouver l'énergie perdue. Ainsi, ne passez pas de votre matinée à répondre à des mails si cette activité ne vous stimule pas sur le plan intellectuel. Consacrez quelques heures à cette activité avant de vous consacrer à l'émission qui constitue davantage le cœur de votre métier. L'ennui est avant tout une conséquence de nos actions. Cet état émotionnel survient quand on peine à être absorbé par l'activité que l'on entreprend. La meilleure stratégie à adopter est donc de réfléchir à ce qui leur provoque pour pouvoir agir sur le cours des événements et éviter de s'enfermer dans la passivité. Car l'ennui est problématique quand il devient chronique. Les salariés qui viennent tous les jours au travail avec des pieds de plomb peuvent ressentir un sentiment d'impuissance et de lassitude qui les conduit à ce qu'on appelle le « bore out ». Cette expression, elle est inspirée du mot « boring » qui veut dire « ennuyeux » en anglais, et elle est communément utilisée pour désigner le syndrome d'épuisement professionnel par l'ennui. Cette pathologie est particulièrement difficile à chiffrer, tant il est tabou de se plaindre d'être payé à ne rien faire. Christian Bourion, qui est auteur de « The Burnout Syndrome, quand l'ennui au travail rend fou », c'est un livre qui a été édité chez Albin Michel en 2016. Eh bien, Christian Bourion estime que 30% des Français souffriraient de ce syndrome. Si les causes du burnout peuvent être diverses, les salariés qui s'ennuient à leur poste ressentent souvent un sentiment d'inutilité et de démotivation. Ils ont tendance à perdre confiance en eux, à culpabiliser et à s'isoler. Et à terme, aller au travail devient pour eux un véritable supplice. Alors, comme toujours en entreprise, il est primordial de parler de son mal-être à ses supérieurs et aux responsables des ressources humaines pour éviter qu'ils ne nous rongent. L'ennui est le résultat de défaillances managériales qui enferment le salarié dans une routine professionnelle faussement confortable. Il est tout à fait possible de le dépasser en demandant une nouvelle mission ou en suivant une formation. Faire un bilan de compétences peut s'avérer très utile pour essayer de rebondir, que ce soit dans son entreprise actuelle ou ailleurs. L'ennui a parfois du bon au travail. D'après donc ce récent travail de recherche, à petite dose, il stimulerait la créativité et la productivité, à condition bien sûr de faire ça dans les règles. C'est ce que modèrent les chercheurs. Donc voilà, si vous ennuyez au travail, ce ne serait peut-être pas forcément une mauvaise chose, mais en tout cas, il faut être attentif à cela. C'est donc cette étude que nous vient donc de cette du collège Mendoza College of Business de l'université Notre-Dame. J'y ai arrivé aux États-Unis. Voilà. Autre information concernant les recherches qui ont été menées sur la mauvaise alimentation et la maladie d'Alzheimer. Il y avait des recherches antérieures qui avaient montré qu'il y avait un lien en fait entre ces deux, entre le fait d'avoir une malbouffe d'un côté et la maladie d'Alzheimer. Eh bien, il y a des chercheurs de l'Université de Caroline du Sud qui ont voulu préciser la relation entre le régime alimentaire et la mémoire en particulier pendant l'adolescence, lorsque le cerveau se développe. Certaines choses qui sont plus facilement réversibles à l'âge adulte le sont moins lorsqu'elles se produisent pendant l'enfance. C'est ce que a déclaré donc Scott Kanoski, qui est professeur de sciences biologiques à cette université de Caroline du Sud. Selon les résultats de l'étude, ils ont travaillé sur des rats qui ont été nourris à l'adolescence avec de la malbouffe, c'est-à-dire un régime riche en graisse et en sucre, et qui présentaient des troubles de la mémoire qui ne disparaissaient pas malgré l'introduction d'une alimentation saine par la suite. Ils ont été soumis à des tests de mémoire d'objets et on s'est rendu compte que les rats qui suivaient un régime occidental ont montré des signes d'incapacité à s'en souvenir, contrairement à d'autres rats d'un groupe témoin, c'est-à-dire qui avaient une alimentation normale, entre guillemets. Les chercheurs ont également suivi les niveaux d'acétylcholine des deux groupes. C'est un neurotransmetteur qui joue un rôle crucial dans la mémoire. Ils ont examiné le cerveau des rats pour y déceler des signes de perturbation de ce neurotransmetteur. Les animaux qui ont grandi avec la malbouffe présentaient une altération de la signalisation de l'acétylcholine dans l'hippocampe, signal qui nous permet de nous souvenir des événements. Et donc on s'est rendu compte que ces rats qui avaient mal mangé avait donc des problèmes au niveau de cette acétylcholine. Et des médicaments qui induisent la libération d'acétylcholine pourraient inverser la tendance d'après des tests préliminaires. Ces traitements administrés directement dans l'hippocampe permettraient de restaurer la capacité de mémorisation des rats. Ok, donc le traitement est un peu, brutal, on va dire, mais on en sait un petit peu plus justement sur cette malbouffe, cette mauvaise alimentation, et voir justement comment cela peut avoir un lien avec la mémoire sur la durée. Donc, et ça au niveau des adolescents, c'est ça qui est intéressant en fait, c'est justement une étude qui a été menée sur les adolescents bien évidemment. Voilà, donc c'est... ça nous rassure pas tout ça, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est le monde dans lequel on vit bien évidemment. Allez, quand même au niveau médecine, des informations un petit peu plus réjouissantes avec notamment l'insuffisance cardiaque. Oui, bon, réjouissant, oui, parce que là je vous donne une information qui va être plutôt optimiste concernant l'insuffisance cardiaque. Elle touche plus de 64 millions de personnes dans le monde et elle peut bien sûr sérieusement affecter la qualité de vie. Les patients ressentent souvent de la fatigue, de l'essoufflement et ont du mal à mener leurs activités quotidiennes. Bien que les études précédentes aient déjà montré que le yoga peut aider, eh bien une nouvelle étude qui a été présentée cette année au congrès scientifique Heart Failure de la Société européenne de cardiologie, cette étude a mis en évidence les avantages du yoga à long terme. Cette étude a été dirigée par le docteur Ajit Singh du Conseil indien de la recherche médicale. On ne parle pas souvent de l'Inde dans cette émission. Cette recherche met en lumière le rôle positif que peut jouer le yoga en complément des médicaments traditionnels. L'étude a impliqué des patients âgés de 30 à 70 ans ayant subi une intervention cardiaque récente et suivant un traitement médicamenteux conformément aux recommandations. Sur les 85 participants, 40, à peu près la moitié, ont été assignés au groupe yoga et puis l'autre moitié, ce qu'on appelle le groupe témoin, donc ils n'en ont pas fait. Tous ont continué à prendre leurs médicaments habituels, bien évidemment. Les patients du groupe yoga ont suivi des séances encadrées par des professeurs expérimentés où ils ont appris des techniques de respiration, de méditation et de relaxation. Après une semaine de supervision, ils ont été encouragés à pratiquer le yoga chez eux pendant 50 minutes, une fois par semaine, avec un suivi régulier. Les résultats ont été évalués à 6 mois et après 1 an et se sont concentrés sur la structure et la fonction cardiaque, la tension artérielle, la fréquence cardiaque, le poids, etc. Et donc, on a comparé les deux groupes et on s'est rendu compte que le groupe qui avait fait du yoga a montré des améliorations significatives dans toutes ces mesures. Ça démontre donc un cœur plus fort et une capacité accrue à mener des activités quotidiennes. Les résultats suggèrent que le yoga peut être une thérapie complémentaire bénéfique pour les patients souffrant d'insuffisance cardiaque. C'est ce qu'a donc déclaré l'auteur de cette étude, le docteur Ajit Singh. Le yoga aiderait donc les patients atteints d'insuffisance cardiaque. Voilà, c'est ça la conclusion de cette étude. C'est assez intéressant quand même. je trouve. On n'avait pas nécessairement associé cela. En tout cas, on va dire qu'on ne l'avait pas nécessairement prouvé d'une façon scientifique. C'est chose faite désormais. Allez, on écoute un dernier titre. Tiens, on va écouter Hubert Félix Thiéfaine. Il y a longtemps qu'on ne l'a pas écouté sur l'antenne de Graphite. Et puis, on va se quitter avec des dernières petites brèves sur l'antenne de Graphite. À tout de suite. La ruelle des morts, Hubert Félix Thiéfaine sur l'antenne de Graphite. Fait plaisir d'écouter Thiéfaine de temps en temps. Allez, avant de nous quitter, quelques petites brèves. Alors non, avant, j'ai complètement oublié de parler de la 13e bourse au disque, au BD et rétro gaming qui est organisée par Graphite. Déjà la 13e bourse de Graphite, c'est quand même formidable. Je sais pas, le temps passe tellement vite. C'est dimanche 20 octobre à Marny-les-Compiègne. Donc, si vous souhaitez être exposant, peut-être consulter, peut-être encore possible de partir participer, vous consultez le site internet pour avoir les informations graphite.net. Mais par contre, si vous souhaitez visiter, bien évidemment, eh bien, allez-y, c'est toute la journée, de 9h à 18h, dimanche 20 octobre, 13e bourse au disque OBD et Retro Gaming à Margny-les-Compiègne, organisée par Graphite, bien évidemment. Les dernières petites brèves que l'on peut trouver dans Science et Vie et dans Science et Avenir du mois de septembre et d'octobre. Non, j'ai pas ceux d'octobre encore, donc ça va être ceux de septembre que j'ai pas eu le temps d'évoquer dans cette émission. Déjà, alors là, ça se passe à l'université de Tours. Il y a des moutons qui sont capables d'apprendre des tâches complexes. C'est ce qu'a montré une équipe française en parvenant à dresser des moutons, à passer des IRM tout en restant éveillé. C'est une première mondiale, une photo dans Science et Avenir qui est quand même formidable, où on voit le mouton en train de passer son IRM et il reste éveillé durant l'examen. Jusqu'ici, les études de neuroimagerie animale nécessitaient en effet d'anesthésier les ovins incapable de supporter le stress de l'examen. Tu m'étonnes, c'est quand même pas simple de passer une IRM. Eh bien, cette étude a été menée sur 10 moutons de la bergerie de Nouzilly en Val-de-Loire, ce qui a permis d'acquérir des images de leur cerveau d'aussi bonne qualité. Donc, bravo les moutons et félicitations à cette équipe de l'Université de Tours. Autre chose, concernant la première cartographie satellite qui a été réalisée des déchets en Méditerranée, un inventaire des amas de plastique flottant dans la mer Méditerranée a été réalisé par le satellite Sentinelle du programme européen Copernicus. Après 6 ans d'observation du rayonnement infrarouge émis par ces détritus largement majoritaires, plus de 14 000 bandes de déchets plastiques de plus de 10 mètres ont été détectées, d'une longueur moyenne de 1 km. Ce premier relevé expérimental devrait servir à mieux gérer la pollution plastique et comprendre un petit peu les courants marins en Méditerranée. Il y a une carte dans Science et Vie également, Science et Avenir, pardon, qui montre un petit peu les zones dans lesquelles on a ce regroupement de ces déchets en Méditerranée. Je ne vous cache pas qu'il y a certaines zones qui sont vraiment, proches des littoraux, notamment proches de la Côte d'Azur, qui sont véritablement des amas de plastique qui sont vraiment assez importants à voir. La planète ne cesse de se réchauffer, on le sait. Le réseau européen Copernicus, là encore, qui utilise des données satellitaires pour estimer les températures de l'air et de la mer en temps quasi réel, eh bien, ce système a calculé que le lundi 22 juillet dernier avait été au niveau mondial la journée la plus chaude jamais enregistrée depuis le début des relevés en 1940. Le nouveau record de température mondiale, 17,1 degrés. C'est la température moyenne, 17,1 degrés. C'est quand même énorme. C'était le 22 juillet et ça a été justement révélé par Copernicus. L'université de Glasgow, Royaume-Uni, nous a présenté un algorithme qui a été entraîné à générer des trajectoires probables empruntées par une personne disparue. L'idée, en fait, c'est d'envoyer sur une zone de disparition un drone intelligent muni d'une caméra. Et les simulations qui sont basées sur des cas réels et des études sur le comportement des personnes perdues, eh bien, ces simulations ont donné d'excellents résultats. Il y a encore des expérimentations en conditions réelles qui seront nécessaires, mais on aurait donc la possibilité d'avoir des drones pour la recherche de personnes disparues. C'est quand même assez étonnant. Ils ont été libérés, ils ont été délivrés, comme le chante la Reine des Neiges. Il y a 4 scientifiques qui ont achevé en juillet une mission de 378 jours passée dans un habitat martien à Houston aux États-Unis. Culture de légumes, la marche dans du sable rouge, un isolement, une communication ralentie avec la Terre. Tout ça, c'était au programme. L'idée, c'était de préparer une possible installation humaine sur Mars. 378 jours, ça y est, ils sont sortis. C'était courant juillet, on n'en avait pas parlé. On avait parlé de cette expérience, mais j'avais oublié en septembre d'évoquer le fait qu'ils étaient sortis en juillet. Ils sont quand même sortis après 378 jours en conditions martiennes. Waouh, ça doit être quand même un petit peu violent. Il y a une étude d'échantillons de muscles cultivés à bord de la Station Spatiale Internationale qui a révélé des détails inédits sur la façon dont le manque de gravité perturbe la régénération musculaire. Il présentait notamment des symptômes de sarcopénie, c'est une maladie qui est liée à l'âge. Mais l'expérience a permis de tester des traitements prometteurs, que ce soit sur Terre ou en vue de voyages spatiaux prolongés. On sait justement que les voyages spatiaux prolongés auront une incidence sur la physiologie des personnes. Et donc, du coup, il y a des traitements pour préserver les muscles dans l'espace qui vont pouvoir être mis en place. Autre information, il y a eu des lunettes qui ont été créées. Elles sont toutes simples et elles permettraient de voir dans l'obscurité. Ce sont des physiciens de l'université de Canberra en Australie qui ont établi qu'un composé chimique qui s'appelle le niobate de lithium, recouvert de silice, ça permettait de convertir les infrarouges en rayons visibles par l'œil. Il le fait 10 fois plus efficacement que le matériau qui était utilisé jusqu'à présent. En revanche, il doit être couplé à un laser qui reste à miniaturiser. Donc le dispositif n'est pas encore totalement, comment dire, efficace en termes de portabilité, mais par contre, il l'est en termes de visibilité. Ça permet donc de voir la nuit. Et ça sera quand même totalement intéressant dans certaines conditions, bien évidemment. En tout cas, on a ce nouveau composé chimique qui permet d'avoir une meilleure précision au niveau de la vue infrarouge. Enfin, dernière information qu'on a dans Science et Avenir, le visage pourrait être modelé par la pression utérine. Notre visage commence à se former à l'état d'embryon dans une structure transitoire appelée crête neurale et dont les cellules se différencient sous l'effet d'une cascade d'activation génétique et moléculaire. Mais la pression du milieu, donc de l'utérus, pourrait aussi jouer. C'est la suggestion de Roberto Mayor, professeur en biologie du développement à l'Université de Londres au Royaume-Uni. Tout commence par une découverte fortuite il y a près de 20 ans. Il explique « Un de mes étudiants a accidentellement fait tomber un petit morceau de verre sur des cellules de la crête neurale et à notre grande surprise, elles se sont transformées en un autre type de cellules. » Alors à l'époque, personne ne l'expliquait, mais récemment, il y a un doctorant qui a émis une hypothèse. Le tesson de verre a exercé une pression sur les cellules, ce qui a modifié leur nature. Et donc, pour s'en assurer, les chercheurs ont alors manipulé la pression exercée par des liquides baignant les cellules de 3 types d'embryons, des embryons de souris, des embryons d'amphibiens et aussi des neuroloïdes humains. Ce sont des embryons artificiels dérivés des cellules souches humaines. Et résultat, l'augmentation de la pression sur une cavité de l'embryon diminue l'activité d'une certaine protéine, ce qui perturbe la cascade de signalisation nécessaire au développement de la crête neurale. C'est ce qu'explique le biologiste. Donc il y a certaines malformations au niveau du crâne et au niveau du visage qui pourraient découler de cet effet. Alors cela, ça reste encore à vérifier, bien évidemment. Nos travaux montrent que le développement de l'embryon est sensible à la pression, mais nous ne savons pas encore à quel point la pression à l'intérieur de l'utérus peut l'affecter. C'est ce que reconnaît donc le chercheur. Mais voilà, notre visage pourrait être modelé par la pression utérine. Voilà, c'était Biotine, l'émission de science sur l'antenne de Graphite, tous les samedis entre 12h et 13h sur le 94.9 pour la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. C'est tous les samedis entre 12h et 13h. Exceptionnellement, samedi prochain, on va se retrouver à 14h pour une émission spéciale en direct de la Fête de la Science de l'Université de Technologie de Compiègne. La Fête de la Science est cette manifestation nationale qui vous permet de vous rendre dans des lieux où se fait la science, donc les musées, les centres de recherche, les universités, les établissements d'enseignement supérieur. Il y a également des industriels qui également participent à la Fête de la Science et ça vous permet d'être au cœur de la recherche scientifique et technologique. Et donc nous, nous serons au cœur du village des sciences samedi prochain avec Peggy à partir de 14h en direct sur graphite.net et sur le 94.9 pour une émission spéciale de Biotine pour la Fête de la Science, samedi prochain, bien sûr. Je vous souhaite d'ici là de passer une très bonne journée et une très bonne semaine. À bientôt, au revoir.